Autre chose que l'on connaît et que vous avez connu pour n'importe quelle personne d'entre vous qui s'est promenée dans le tiers-monde, vous avez vu, bien entendu, ce qu'on appelle les éléphants blancs. Que sont les éléphants blancs? De formidables projets de développement qui, en fait, sont inappropriés et inadaptés au pays en question. Ce sont de formidables usines vis-à-vis desquelles on n'a pas les ouvriers et on n'a pas la main-d'œuvre compétente. Ils furent multipliés. Vous avez ceci, vous allez au Sénégal, vous allez au Ghana, vous allez au Togo, vous allez dans tous les pays du Sud, vous avez de formidables projets qui ont été financés à coups de milliers et qui en fait ne sont pas fonctionnels. Ou vous allez voir des puits extrêmement sophistiqués, vous n'avez personne pour savoir les faire fonctionner. Et on a travaillé avec de grands projets comme ceci qui pouvaient donner justement la caution au pouvoir et qui, dans la réalisation de ce projet, prenait une grande somme dans les commissions pour des projets qui étaient non fonctionnels, qui ne s'adaptaient absolument pas aux populations. Pourquoi? Parce que la première étape des projets de développement était la décision de projet de développement que l'on pensait au Nord, inadapté, non intégré à la réalité des pays du Sud. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Banque mondiale a énormément évolué dans ses projets de développement et que de plus en plus, elle a pris en compte les réalités des populations dans les programmes de solidarité, les programmes et les financements. Reste que pendant des années, cette réalité a été celle des pays du Nord qui savaient mieux que les pays du Sud comment est-ce que l'on pouvait réaliser un projet de développement. Et il y a eu en tout cas 30 années d'échecs concernant les programmes de solidarité, concernant les progrès, les programmes de soutien et les projets de soutien. Et ceci a été une constante. Aujourd'hui, la Banque mondiale revoit sa copie, entre davantage en collaboration avec les populations locales et essaye de mettre en évidence ce qui s'appelle des programmes sociaux d'appoint, en mettant en évidence le fait qu'il faut considérer les populations, même avec toujours des déficits extrêmement importants dans la mobilisation populaire. Reste une des choses sur laquelle, quand même, en matière de développement, il faut que nous soyons tous au courant, parce que le terme doit être connu de tous pour ce qu'il est et ce qu'il provoque. Qu'est-ce qu'un programme d'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international? C'est la règle. Dès lors qu'un pays entre dans le collimateur du Fonds monétaire international, il est soumis immédiatement à une reprise en main de son économie. La reprise en main de son économie commence par les coupes budgétaires de tout ce qui concerne la gestion du pouvoir. Dans un premier temps, les salaires des fonctionnaires, tout ce qui concerne le soutien et les subventions du pouvoir pour les produits de première nécessité sont en général coupés. Et on part du principe qu'il faut que l'orientation et l'économie du pays soient fondées d'abord sur des produits d'exportation. Sur des produits d'exportation, en d'autres termes, ce qui est important dans un programme d'ajustement structurel, ce n'est pas que l'agriculture soit la production de cultures vivrières pour les populations, mais de cultures d'exportation, en disant plus vous exporterez, plus vous aurez des rentrées d'argent, plus votre économie fonctionnera. Or, on s'est aperçu que ces programmes d'ajustement structurel étaient l'imposition d'un modèle unique et qu'on mettait en compétition non pas les pays du Nord, mais les pays qui étaient producteurs de la même chose. Toi qui fais du café, exporte. Toi qui fais du café, exporte. Toi qui fais du café, exporte. Vous entrez en compétition et nous on achète moins cher. C'est ça la réalité. Mise en compétition de ce qui est la production des pays du Sud pour l'achat moins cher par les pays du Nord et le laisser entendre que plus vous exporterez, plus vous recevrez de l'argent. Or, on s'est aperçu que les programmes d'ajustement structurel appauvrissaient les fonctionnaires, étaient des coupes sombres dans tout ce qui concernait l'éducation. Les investissements pour l'éducation étaient coupés et tout ceci était orienté vers l'assainissement des économies. La réalité aujourd'hui, c'est que l'on a vu ce que ça a provoqué. On a provoqué la diminution du pouvoir d'achat des populations. C'est une chose, c'est une certitude. Alors qu'est-ce que fait la Banque mondiale aujourd'hui? En mal de conscience par rapport à ces projets-là, aujourd'hui on a ajouté justement ces programmes de soutien sociaux qui sont finalement des choses qui sont comme des pansements. Ça fait mal, mais on va vous aider un peu pour que vos populations souffrent moins. Mais la réalité, c'est que c'est tout le système qui ne fonctionne pas. C'est que les populations et les peuples qui ont décidé, les pouvoirs qui ont décidé de sortir de ce système-là ont été coupés. Je vous en ai donné deux exemples tout à l'heure. Le Soudan, quand il a décidé de faire une culture vivrière, sortait de cette logique du programme d'ajustement structurel, coupé, sorti, plus de soutien. Sankara, au Burkina Faso, la même chose, il était gênant. Parce que si son projet fonctionnait, à savoir qu'il faut s'orienter vers une culture vivrière, pour la population locale, on sortait d'un système de dépendance. Or, la meilleure façon de tenir la politique d'un pays, c'est de le rendre dépendant économiquement et de maintenir son indépendance. C'est l'ordre du monde tel qu'il s'apparaît, tel qu'il apparaît aujourd'hui, même si l'on propose des soutiens sociaux, même si l'on propose des programmes de soutien. Aujourd'hui, on sait que cette réalité-là a montré ses limites et que les projets de développement et le terme même de développement par l'économie sur le plan du modèle dominant est un échec pour tous les pays pauvres. Un échec. La seule réalité que l'on met en évidence, c'est effectivement celle des pays asiatiques. Et les pays asiatiques qui ont réussi localement à se mettre, à établir une puissance locale avec quels coûts sociaux également, quelle réalité pour les sociétés. Et nous avons vu il y a 2 ans la capacité des places financières à déstabiliser ce qui était l'Indonésie et ce qui était la Malaisie, puisque les économistes mettent en évidence qu'il n'y a pas eu de hasard dans les troubles qui se sont passés dans cette région du monde et que le pouvoir de déstabiliser une réussite économique reste aujourd'hui entre les mains des grandes places financières et des grandes places de spéculation qui font l'économie contemporaine. Je sais, pour ceux qui sont des spécialistes du sujet, que les choses sont dites de façon, même comme ceci, elles ne sont pas dites dans toute la profondeur qui serait requise, mais pour moi, ce qui compte aujourd'hui dans un débat comme celui-ci, dans une conférence comme celle-ci, c'est de montrer les grandes orientations des logiques internationales qui doivent développer chez chaque citoyen, chez chaque être de conscience et de foi, une prise de conscience. Dernier élément que nous avons vu aujourd'hui apparaître, je vous l'ai dit, la réalité d'un siècle, première dimension, la colonisation politique, deuxième dimension, le déplacement du politique vers l'économique, troisième dimension, le mix du développement, et la troisième dimension, celle sur laquelle aujourd'hui nous avons aussi apporté notre regard, c'est la réalité de la colonisation culturelle. La réalité de la colonisation culturelle, c'est la concentration de tous les moyens techniques, de tous les moyens de communication au nord ou dans les capitales relais du nord. Vous connaissez la fameuse théorie qui s'appuie sur la dimension du centre et de la périphérie. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tous les moyens de communication et de production de l'univers symbolique culturel sont au nord ou s'appuient sur des capitales au sud. C'est la réalité. L'invasion culturelle, qu'est-ce que c'est ? C'est la promotion d'un mode de vie, d'une façon de lire le monde, d'une conception du rapport de l'homme à son univers. C'est la réalité par laquelle aujourd'hui et dans laquelle aujourd'hui nous vivons. Vous vivez vous-même aujourd'hui et vous l'avez vécu dans les 10 dernières années, l'arrivée ici à l'île de la Réunion de tout ce qui a été les supports de communication du satellite à la télévision, à ces canaux multipliés, fait une chose extraordinaire. Le caractère insulaire sur le plan géographique de l'île est totalement incapable de mettre un frein à la colonisation de la culture dominante sur le plan international. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en Europe, les moyens de communication font de vous les soumis à la mode et au mode de pensée occidentale. vous subissez l'influence à des années, à des kilomètres, parce que la géographie n'est plus du tout ce qui détermine l'horizon et la périphérie et la superficie d'une culture. Tout cela a changé. Ce n'est plus la réalité. Vous êtes en Occident à des années de l'Europe, à des kilomètres de l'Europe, à des kilomètres de la France, vous pouvez être encore en France, et de la culture française dominante. Il s'agit simplement de maîtriser les moyens de communication. Il s'agit de faire en sorte que le mode de pensée dominant domine à des kilomètres de là. Et c'est la réalité. Trois choses de mettre en évidence. 1. La maîtrise par le Nord des agences de l'information. Sur les 10 plus importantes agences de transmission de l'information, 9 sont en Occident. 9. C'est-à-dire que pratiquement toute l'information mondiale passe par les canaux occidentaux. Comment voudriez-vous qu'on vous donne une vision alternative de l'information? Pas possible. Et si on vous donne une information de cette nature-là, forcément l'économie qui s'appuiera sur cette information sera en conformité avec l'information destinée à protéger cette économie. Il y a une logique là-dedans. Quant à ceux qui rêvent d'une information européenne alternative, bonne chance. Bonne chance. Sauf avoir des foyers de résistance, la logique reste la même. C'est-à-dire que la concentration de l'information dans les mains de quelques agences est exactement la réalisation en harmonie du système. Il n'y a pas de crise. Il n'y a aucune crise dans le système et pas dans l'information, surtout pas. Et qu'une information soit idéologiquement orientée, pas de problème, on est dans le coup. Que l'économie soit orientée, pas de problème, nous sommes dans la voie. Que le politique soit soumis à l'orientation économique, pas de problème, c'est la logique du système. N'y voyez aucune crise, si ce n'est la logique d'un système qui se renforce de ses composantes. L'économie, l'information, le politique. Si tu as les éléments de ces trois dimensions, tu peux faire tourner la tête à n'importe quel homme. Prenez un exemple. Vous prenez une maison, vous mettez une famille, et dans la maison, vous détenez l'information qui y entre, la gestion du budget. Et c'est la politique, vous tenez le tout. Si toutes les informations du monde, vous les tenez et vous tenez la monnaie, à quoi lui sert le pouvoir politique ou le pouvoir intellectuel? Il est perdu. C'est ce qui est en train de se passer dans la gestion actuelle du monde. L'information. Ce qui s'appelle la production de l'univers symbolique. La production de l'univers symbolique, c'est la production des modes de pensée, qui est aujourd'hui appuyée par tout ce qui est la production cinématographique. Si c'est quelqu'un parmi nous pense que Hollywood est la seule production de films pour faire plaisir et qu'il n'y a pas une idéologie et un mode de vie là derrière, ce qui est très naïf. Hollywood n'est pas une centrale de production de films, c'est une industrie. C'est une industrie, et une industrie qui porte une idéologie. Et cette idéologie, c'est une certaine façon de vivre. Mais Hollywood et le cinéma de masse aujourd'hui n'est absolument pas un cinéma pour l'esthétique et l'art. C'est une industrie. Ça doit rapporter. Vous voulez un exemple? Deux exemples très très récents que vous connaissez tous. Si je vous dis par exemple, je le dis partout, je peux faire le tour du monde. Et l'exemple de la meilleure des mondialisations, c'est celle-ci. Avez-vous déjà entendu parler d'un bateau? Voilà. L'exemple de la colonisation du mode de vie, c'est celui-ci. Le Titanic a été une formidable puissance. Une production qui a rapporté des millions. C'est une industrie. Ça rapporte de l'argent et ça vole les esprits. Et je rappelle simplement une petite chose pour que vous vous rendez compte quel pouvoir cela a. Les effets latéraux du film ont rapporté plus d'argent
que le seul produit intérieur brut de la Mauritanie. C'est ça la réalité d'une industrie. Un pays comme la Mauritanie, avec des millions de populations, un film, ça rapporte davantage. Avec en même temps que ceci, toute la production d'imagerie. J'étais récemment avec ma famille, nous étions au Yémen. Et je vous promets, le Yémen, c'est pauvre. Mais quand vous rentriez dans une petite librairie au Yémen, ah, comme c'était beau. Vous aviez cette image de ce si bel acteur. Sur les cahiers des livres pour les jeunes yéménites, parce que dans le Yémen si pauvre, faut que tu saches qui c'est, ce jeune homme si beau, qui est tellement triste d'avoir perdu sa belle sur un bateau nommé le Titanic, en plein milieu du Yémen. C'est ça la réalité d'une colonisation culturelle. C'est pas tout. Un nouveau film a encore remporté la palme. Le nouveau film qui a remporté la palme, c'est La Guerre des Étoiles 3. Jusqu'à ce que le 4e, Star Wars, La Guerre des Étoiles. La Guerre des Étoiles, avant même que le film sorte, et que l'on attend dans les deux premières semaines 80 millions d'Américains pour aller voir ce film, avant que le film sorte, la production de jouets qui annonçait la sortie de film avait couvert les frais du film. Des millions de dollars, qui est une industrie. Et ceci, ça se voit dans toutes les capitales du monde. Vous allez de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc, en passant par tous les pays les plus pauvres, ils savent qui. Ils connaissent l'existence du Titanic, un phénomène mondial. Mais réfléchissez, qu'est-ce qui se cache derrière la production symbolique du film Titanic? La protection des cultures africaines? La protection des cultures et de l'éthique, des religions et des spiritualités? Mais non, c'est la lamination de tout ce qui est le référent culturel des autres pour l'imposition d'une culture dominante, avec une force incroyable. Au point qu'on nous trompe, aujourd'hui on va aller chercher des expressions culturelles et on va les internationaliser, les universaliser. Vous voulez un exemple? On est allé chercher la lambada. La lambada, et on a fait un phénomène international. Au point que tu danses pareil au Brésil, en Afrique, en Chine. Parce qu'en Chine, ils apprenaient la lambada. C'est ça la réalité de tout un univers. Et les films, la production des films s'associent aux plus grandes multinationales. Le Coca-Cola, et ça c'est un sociologue américain qui était venu à Barcelone et qui nous a fait un exposé magistral. Les deux piliers de la production symbolique, parce que ça aussi il faut le développer dans le développement culturel. Il prenait l'exemple de multinationales, et c'est le troisième point que je voulais mettre en évidence, qui appuyait la confirmation du mode de vie. Vous en avez deux exemples. Le premier, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, dans ses rapports en 1997, met en évidence que par rapport au marché chinois, écoutez bien la formule, nous allons entrer en guerre contre le thé chinois. C'est une logique de guerre. Et le thé chinois, ce n'est pas un thé qui a un certain goût. Le thé chinois, c'est un mode de vie. Le thé chinois, relevé par ceux qui analysent la culture chinoise, à côté du thé, il y a toute une façon d'être en famille. Il y a le moment du thé, il y a toute une culture du thé. Lutter contre le thé, c'est casser un mode de vie. C'est pas simplement changer le produit. Tu ne vas pas te mettre autour du salon de la même façon avec un Coca-Cola ou avec un thé. La culture du Coca-Cola entre en guerre contre le thé chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer le mode de vie. Et l'autre mode fondamental que vous connaissez, j'aimerais que vous rendiez compte un tout petit peu de ce que cela veut dire en matière de production. Oui. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, je ne sais plus exactement le nombre, mais le chiffre de production de McDonald's dans le monde se multiplie par jour. Ce sont des milliers de petits McDonald's partout. Et McDonald's, ce n'est pas le hamburger, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie où tu manges vite, c'est devenu une machine. Tu passes au McDonald's, c'est comme si on te mettait de la basilique, tu ressors et tu repars pour la journée. C'est-à-dire qu'on te remplit. C'est ça la réalité. Et jusqu'à ici, vous voyez McDonald's et on nous a dit, McDonald's, quand il s'est ouvert même ici dans le sud, ça a été la ruée. Parce que McDonald's chez nous, c'est quand même le top. Et utilisons le mot top parce que ça fait in. Et toute la culture de l'anglais, c'est exactement cette réalité qui est la nôtre. Et c'est cette dimension-là aussi qu'il faut connaître, qui est l'imposition d'une culture de masse et d'une production, d'une façon de vivre. Mettez en évidence simplement pour tous ceux d'entre vous qui, par rapport à ceci aussi, doivent beaucoup réfléchir. J'insiste sur tous ceux qui, par exemple, en Europe, ont développé une vraie réflexion sur ce qu'est le McDonald's pour une chose. On peut être d'accord ou pas avec la production, et vous devez imaginer ce que je peux en penser. Mais n'oubliez pas, quel traitement des enfants est aujourd'hui associé à la production des petits jouets que l'on donne aux jeunes dans les McDonald's. Parce que le petit jouet que l'on donne, on le sait aujourd'hui, est produit par des jeunes qui, dans les pays du tiers-monde, sont soumis à de l'esclavage ou à des traitements iniques également. C'est aussi cette réalité-là qu'il faut savoir. Avant d'en arriver au dernier point, je suis déjà engagé ici sur la question de la mondialisation avec tout ce que je viens de dire. Vous le savez aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce est la confirmation de ce système. Libérer les échanges, il n'y a plus de barrières, mais on sait ce que cela veut dire. Cela veut dire la confirmation du pouvoir des riches et la lamination du pouvoir d'indépendance des pauvres. C'est ça la réalité. La confirmation par l'institution d'une production de l'injustice sur le plan international. Je n'ai pas le temps de ce point de vue-là d'entrer dans ces détails, mais toute personne qui analysera la façon dont s'organise maintenant l'Organisation mondiale du commerce sur les statuts et les décisions qui sont prises sur la libération du commerce, la libéralisation du commerce, ne sont que la confirmation du pouvoir des riches et de l'impossible libération des pauvres. Ou la libération des économies pauvres et la libération des politiques. Autre chose également qui est liée, et je l'ai mis en évidence maintenant, c'est pour ça que je n'y insisterai pas, la réalité. Je suis d'accord avec El Manjara, qui est un analyste marocain qui est aujourd'hui au Japon, qui dit clairement, arrêtez de nous mentir. La réalité de la mondialisation, c'est que c'est la réalité de l'occidentalisation. Et dans les normes de la gestion de l'économique, et dans les normes de la gestion des modes de vie. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est difficile à contredire. Le jeu est ce qu'il est, et on ne pourra pas, ni les gouvernements qui s'opposent, que ce soit en Chine ou que ce soit dans le monde musulman, ne pourront éviter de rentrer dans le système. Mais il faut savoir ce que le système coûte et quel type de résistance nous avons à développé. Comme également, nous le savons, par rapport à cette mondialisation et par rapport à la gestion de ces informations, c'est la lecture orientée sur laquelle, vis-à-vis de laquelle j'ai déjà dit un mot, et vous le savez en particulier, tout ce qui s'est passé, il y a des exemples, tout ce qui s'est passé par rapport à la guerre du Golfe est un formidable exemple. Un formidable exemple d'une triple gestion. Et nous savons aujourd'hui, j'espère que vous connaissez l'émission qui s'appelle « Les mensonges de la guerre du Golfe ». C'est un texte de référence, c'est une émission canadienne qui a gagné le premier prix des émissions d'information et qui s'est traduite par un ouvrage et qui met en évidence comment la politique orientée des États-Unis et de ses alliés dans la guerre du Golfe a, si vous voulez, ajouté les éléments compensés de sa puissance pour désorienter la population sur le plan mondial. Premier élément que l'on sait, c'est effectivement, il y a des doutes là-dessus, mais des indices mettent en évidence, Salinger l'a mis lui-même en évidence, que les États-Unis ont laissé une porte, ou ont laissé entendre, ceci on le sait en tout cas, à Saddam Hussein qu'il n'interviendrait pas en cas d'invasion du Koweït. Ça, cette dimension, on la connaissait. Ce qui est le plus important dans cette lecture-là, dans la dimension de la mondialisation qui défend des intérêts, la première chose, c'est le jeu avec le pouvoir politique. La deuxième des choses, c'est l'intervention sur le plan militaire avec une production en matière d'armes qui a été une formidable aubaine pour les États-Unis, à tous les niveaux. D'ailleurs, j'aimerais quand même que vous n'oubliez pas, avec ce qui est en train de se passer au Kosovo, les effets induits de la crise au Kosovo en matière de reconstruction des pays, des liens avec les entreprises américaines et les entreprises européennes, et la possibilité d'intervention et les gains économiques des puissances dans la région sont formidables et doivent nous poser des questions sur qui mène quoi dans cette espèce de jeu de massacre auquel nous assistons aujourd'hui. Mais par rapport à la guerre du Golfe, pour y revenir, la première des choses, la question des armes, l'influence politique. L'influence politique est la troisième des choses, la formidable puissance de l'information. En fait, le monde entier était rivé devant la télévision, on lui disait tout, il ne voyait rien et ne savait que ce qu'on voulait qu'il sache. Et on nous a menti, vous savez, parce qu'il faut se rendre compte de la puissance incroyable de cet élément-là qui participe de la mondialisation et qui développe des rapports nord-sud. Aujourd'hui, avec une émission de 30 minutes, écoutez-moi bien parce que c'est grave, avec une émission de 30 minutes, vous pouvez changer l'opinion publique d'un pays, c'est-à-dire 150 millions de personnes qui acceptent que le pouvoir est démolir un pays qui s'appelle l'Irak et le tenir depuis aujourd'hui 9 ans dans une situation qui provoque chaque année jusqu'à 250 000 morts. Une émission a lancé, a mis en branle le processus. Savez-vous de quoi il s'agissait? Une mise en scène. Le département d'État américain finance une agence de relations publiques qui va étudier le comportement de la population américaine par rapport aux événements. Elle met en scène une histoire. Les mensonges de la guerre du Golfe l'ont mis en évidence. C'est une émission canadienne qui nous dit quoi donc? Qu'en fait, toute l'histoire de l'intervention des pouvoirs de Saddam Hussein et des militaires de Saddam Hussein dans une pouponnière où il aurait fait arracher les enfants des couveuses est une histoire inventée. Inventée. Et le responsable de l'agence de relations publiques vous explique comment les taux évoluaient dans la population par rapport à l'intervention militaire des Américains. Et il vous dit, quand on a passé l'émission, et qu'une femme est intervenue à la télévision en larmes, en expliquant comment les soldats de Saddam Hussein étaient entrés dans la pouponnière, avaient arraché les enfants, les avaient jetés à terre et laissés mourir, elle pleurait fort, elle pleurait d'une véritable mise en scène. Savez-vous ce qu'on a su par la suite? Cette femme, cette jeune fille, était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Elle a mis en scène, elle a pleuré, et c'est la mise en scène. Cette émission, il le montre, vous le voyez dans l'émission canadienne, il vous dit en ce moment-là, la pique est montée, la population était prête. Pourquoi? Pour accepter une intervention militaire en Irak. C'est-à-dire qu'on a mis en scène, il fallait que le peuple suive. Vous détenez les médias, vous changez l'opinion publique. C'est notre monde, ça. Mais ce qui est plus grave pour nous, c'est de se rendre compte des effets, du drame que cela a pu provoquer, et en particulier des milliers de morts. En plus, pour nous tous, de savoir que ce n'est pas fini. Est-ce que vous savez que le peuple irakien a toujours le même dictateur et est soumis toujours à cet embargo catastrophique qui provoque la mort d'enfants? Les bombes qui sont tombées, vous savez ces bombes millimétriques, comment les appelle-t-on déjà? Les bombes chirurgicales. Vous savez combien étaient chirurgicales? 7% ont atteint leur cible du premier coup. 7%. Et on a assis un peuple, c'est-à-dire le pouvoir également. Vous voulez un autre exemple? Sur le terrorisme international. Vous savez que depuis 10 ans maintenant, le Soudan, respectivement chaque deux ans, est mis en évidence comme étant le réseau, le lieu où l'on supporte les terroristes. Il n'y a qu'à dire ceci. Puis à un moment donné, qu'est-ce que l'on fait? Au moment où M. Clinton a quelques difficultés avec son honneur, pour rester poli, eh bien, dans cette réalité-là, et c'est aussi la réalité, on va démolir une usine pharmaceutique et l'on dit qu'il y avait des produits chimiques pour la production de bombes, pour le terrorisme, celui qu'on a complètement construit. Parce que ça fait bien dans le romantisme aujourd'hui, le milliardaire intégriste Ben Laden. Pendant 8 ans, les États-Unis l'ont soutenu. Cet homme est une construction du pouvoir américain. Et il suffit de le mettre un tout petit peu partout en se disant qu'il se déplace partout. C'est une construction. C'est eux qui l'ont soutenu pendant des années à partir de l'Afghanistan. Et aujourd'hui, ils nous disent que c'est lui qui détient. Il a le don d'ubiquité. C'est le seul sur cette terre, parce qu'il a des milliards quand même, vous voyez la puissance. Il arrive à être à Genève, à New York et en Afghanistan en même temps. Bien, la réalité, c'est que celui qui était censé être au Soudan aussi, avec des relations très 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 pointues avec le Soudan, eh bien, on a démoli une usine pharmaceutique. Cette usine pharmaceutique au Soudan était le fleuron de l'industrie soudanaise pour les populations pauvres, parce que le Soudan est un pays pauvre. Vous avez entendu, tous entendu, à grand coup de fracas, le Soudan soutient du terrorisme. Vous savez ce qui est ressorti il y a maintenant 2 mois ? L'annonce en catimini des États-Unis reconnaissant leur erreur. Il n'y avait pas de produits chimiques dans cette industrie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'usine est à l'eau, la population n'a pas beaucoup de médicaments, et Clinton est toujours président. C'est ça la réalité d'un cynisme international qu'il faut aussi se rendre compte dans les relations internationales. Et on fait d'un pays ce qu'on veut, on en dit ce qu'on veut, quand on détient aussi, à l'ère de la mondialisation, l'information. Dernière partie, très rapidement, quelle éthique, quand on voit tout cela? Parce que vous pourriez vous dire, bien, c'est gentil, le frère Tarek, il nous vient de Suisse, il nous a fait un portrait sombre, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a, par rapport à cela, quelque chose à dire, à faire? Mais bien entendu, en comprenant une chose, dans la formule qui m'a été proposée comme titre, quand on dit rapport Nord-Sud, quelle éthique, le quelle éthique, point d'interrogation ici, c'est égal à quelle résistance. Il faut entrer dans une ère et une profonde compréhension de la résistance. Et j'aimerais vous proposer sur ce plan-là 5 propositions fondamentales. La première des choses, et je n'en ai fait vraiment, je m'en excuse auprès de ceux qui sont plus spécialistes sur ces questions-là, d'avoir dû faire dans la simplification et l'analyse parfois superficielle, mais en rappelant simplement quelques faits. Il n'y a pas de citoyen qui peut porter aujourd'hui la liberté et la résistance sans citoyen qui porte en lui la connaissance. En d'autres termes, tout ce que je suis en train de vous dire vous renvoie à chacun. Si vous êtes les citoyens d'un pays, mais en même temps que les citoyens d'un pays, les défenseurs de l'honneur des hommes, si ceux qui sont citoyens d'un pays sont croyants devant Dieu et veulent porter la défense de l'honneur des hommes, ou simplement dans leur conscience défendre l'honneur des hommes, il ne peut être question de se battre sans avoir accès à la connaissance de ces processus-là. Ça veut dire, et moi encore une fois je rappelle souvent, Ignacio Ramonet, vous voyez, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « La tyrannie de la communication », il vient de gagner le prix des journalistes, c'est très bien. Dans ce livre-là, Ignacio Ramonet, vous le savez, c'est le directeur du monde diplomatique, et on est content de savoir que le monde diplomatique est en train de prendre une place très très importante dans les médias actuels, dans langue francophone, parce que c'est un journal de la résistance. C'est un journal. On peut ne pas être d'accord, et je suis le premier à me démarquer d'un certain nombre d'analyses, mais en tout cas, il vous donne des informations qui rappellent la dignité humaine. Eh bien, il dit dans son ouvrage, et il rappelle à tous les citoyens, si nous voulons commencer à défendre une résistance et une éthique, finalement, dans les rapports Nord-Sud, il faut commencer par la connaissance, et il dit une chose qui est vraie, la connaissance, aujourd'hui, demande un effort. Ça demande un effort. Et ceux d'entre vous qui pensent qu'ils sont informés en voyant le 19h30 ou le 20h sont dans l'illusion. Ça, ce n'est pas de l'information. C'est quelques touches d'événements que vous savez dans le monde, mais vous ne connaissez pas les processus. La véritable information n'est pas de connaître le fait, elle est de connaître le processus qui mène au fait. Et vous avez remarqué tout ce que je vous mets en évidence, parce que je vous ai parlé de Dieu, la guerre du Golfe et du processus qui y mène. En d'autres termes, pour chacun d'entre nous, l'information des processus est la première éthique de celui qui veut défendre les peuples du Sud quand il vit au Nord aussi. Et nous sommes tous dans cette dimension-là. Et je n'ai pas parlé de cet extra. Vous le savez, il y a aussi, par rapport à ces règles, il y a quand même une chose que j'aimerais dire entre parenthèses. La formidable désinformation sur le plan international de tout ce qui est en train de se passer en Palestine. Ne l'oubliez jamais, parce que là aussi, on est en train de faire croire au monde que quand on offre à un peuple des confettis et des bantoustans, on répond à leur honneur. Et le monde dit, puisqu'il y a le mot paix, défendons la paix. Mais franchement, il n'y a pas un Français, il n'y a pas un Anglais, il n'y a pas un Européen, il n'y a pas un Américain qui, si on avait fait ça et qu'on avait dit ça de son pays, la résistance n'aurait accepté ce qu'on est en train de proposer comme dimension de la paix. Un peuple humilié, tellement humilié qu'on utilise le mot paix pour l'asseoir et l'étouffer, et le monde ne veut pas en entendre parler puisqu'on a utilisé le mot paix. C'est véritablement révoltant. Il n'y a pas un Français dans son histoire, si on avait fait le quart du centième de ce qu'on est en train de faire avec le peuple palestinien, qui aurait accepté qu'on parle de paix dans cette situation-là. Et on est en train de nous coloniser la tête. On est en train de dire aux Palestiniens, vous aurez une route pour vous et une route pour les Israéliens. Vous pourrez, entre deux villes, vous ne pourrez même pas communiquer. Quand vous sortez d'une région, il faut demander l'autorisation pour aller à un autre. L'humiliation la plus totale. Et quand j'ai des amis qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas palestiniens, qui sont des personnes de conscience et qui te disent « j'ai été révolté » de la façon dont on traite ce peuple et de la façon dont on est en train de nous proposer la paix. Des gens qui travaillent au niveau de l'ONU, qui sont écœurés. Et à grands coups de renfort, on est en train de nous faire croire aujourd'hui que celui qui est venu à la tête dont on connaît l'histoire, étudiez l'histoire de celui qui est à la tête de l'État d'Israël maintenant, et vous allez voir que si lui c'est une colombe, bien moi je suis prince. Et je vous promets que je ne suis pas prince. Je vous promets que j'ai rien d'un prince, mais qu'il n'a rien d'une colombe. Rien d'une colombe. Que la réalité, il faudra quand même l'étudier. Et ça aussi, c'est sidérant comment l'information internationale a fait que les musulmans qui vivent en Europe ont commencé à fermer leur bouche. Il n'y en a plus beaucoup qui défendent la Palestine. Il n'y en a plus beaucoup qui défendent. Parce qu'on leur dit tout de suite, si tu défends la Palestine maintenant, alors tu es un intégriste. Alors tu dois forcément être de ceux qui posent les bombes. Mais non, on n'a jamais dit ça. Depuis quand est-ce que notre position doit être binaire ? Si tu défends la paix juste, ça ne veut pas dire que, comme tu ne reconnais pas ce qui est en train de se passer, tu es en train de dire qu'il faut mettre des bombes dans... Non, tu refuses l'un, mais tu ne veux pas te laisser illusionner par l'autre. Et là aussi, c'est un bon exemple de l'autorité de l'information sur le plan international. Premier élément donc, la première éthique, celle par laquelle nous devons vivre, et l'exemple de la Palestine en est un. Eh bien, là aussi, c'est de connaître les processus. Jusqu'au processus, du processus de l'économie dominante jusqu'au processus de la maîtrise des émotions. Parce que vous savez qu'on joue avec nos émotions, même sur le plan de la solidarité. En l'espace de 2 semaines, sur le plan international, et c'est bien ce qu'on a fait pour le Kosovo, on les a aidés, mais en 2 semaines, la population internationale a été soumise à la plus grande campagne d'émotivité collective. On a réussi par rapport au Kosovo à faire en sorte que le monde entier soit ému. C'est bien, il fallait le soutenir parce que c'était très très grave. Mais en termes comptables, n'oubliez jamais que les réfugiés actuellement palestiniens sont plus nombreux que les réfugiés kosovars et que les palestiniens, il ne faut pas qu'on porte d'émotion. Donc pas d'image, pas d'émotion. Plein d'images, plein d'émotions. Et là aussi, on peut jouer avec nos émotions de façon incroyable. Analyser ce qui a été fait par un journal américain, c'est assez intéressant. La tristesse collective du monde à la mort de la princesse Diana. Ça, c'est une formidable analyse de ce pouvoir. Excusez-moi donc. Rapidement. Deuxième élément également qui me paraît très très important, c'est à partir de notre réflexion sur ce qui est en train de se passer dans le monde, le développement non pas aujourd'hui d'une, si vous voulez plutôt, la connaissance du processus global, mais la promotion d'actions plus locales. Et aujourd'hui, dans tous les pays africains, comme dans les pays sud-américains, comme dans les pays asiatiques, j'étais l'année dernière en Malaisie et j'ai pu me rendre compte que là également, vous savez quelles sont les structures économiques et les structures de coopératives qui n'ont pas été touchées par la crise ? Ce sont toutes les structures qu'on appelle sur le plan de l'économie du développement les structures mezzo, ni gouvernementales, ni sur le plan, ni trop local, mais qui travaillent au niveau des populations. Et celles-ci ont continué, malgré les déséquilibres de l'économie, à produire et à défendre les populations. Et ça, c'est une des choses sur laquelle nous avons, nous, énormément à travailler, à faire énormément confiance, non pas aux grands projets qui sont liés aux États. Et c'est pour ça qu'on est en train de nous tromper. Aujourd'hui, même les musulmans sont en train de parler d'États musulmans. C'est plus à ce niveau-là que l'enjeu doit se défendre. L'enjeu doit se défendre dans les structures de résistance transnationale, au niveau des populations, non pas au niveau des États, parce que le pouvoir d'un État est très relatif aujourd'hui, mais le pouvoir au niveau des populations est ce qui, on en voit là, mais c'est ce qui, dans l'avenir, va permettre effectivement des résistances. Et on a des choses particulièrement intéressantes dont j'aimerais vous parler. Mettre en évidence également, au niveau non pas des États, mais énormément au niveau des populations, de ce qui est en train de se faire dans beaucoup de pays africains, d'Afrique occidentale, que ce soit au Sénégal, que ce soit même au Burkina Faso aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Égypte, que ce soit en Malaisie, des structures et des programmes qui partent au niveau des populations et qui sont des productions d'éducation, par exemple. De l'éducation prise en charge par les populations, non pas au niveau étatique parce que c'est perdu aujourd'hui, mais des systèmes de solidarité populaire. Et ça aussi, la force sera également des dimensions transnationales. Il faut se poser la question aussi de savoir pourquoi un certain nombre de mouvements qui s'appuient, par exemple sur une dimension identitaire, font peur à l'Occident. Parce que ces mouvements qu'on est en train d'appeler des mouvements, même au niveau des musulmans, des communautés de base, des structures de réaffirmation identitaire sont en train de développer de choses extrêmement intéressantes sur trois niveaux. Un, l'éducation. Il faut promouvoir l'éducation. Et ces grandes campagnes qu'on est en train de nous dire à partir du Nord, le planning familial, et avec l'institution, par exemple, l'imposition de moyens qui sont liés au contrôle des naissances. Or, nous sommes tous conscients que la démographie galopante ne peut pas permettre de solution pour les pays du Sud. Mais il faut se mettre d'accord. Est-ce que c'est par l'imposition, justement, de programmes qui sont liés à des plannings familiaux, qui parfois font contre la morale des gens, que l'on va réussir à résoudre le problème, ou justement par l'éducation ? Tous les programmes, toutes les analyses en matière de développement montrent une chose, c'est que plus une femme est éduquée, moins elle fait d'enfants parce qu'elle s'adapte à son environnement. Que la chose qui produit le plus de démographie galopante est la production d'ignorance dans les populations. Plus une femme est ignorante, plus son moyen de résister à la pression de son environnement est également le fait d'avoir des enfants. On le sait partout. C'est-à-dire que la croissance de la démographie est inversement proportionnelle à ce qui fait justement l'ignorance des populations, donc ce qu'il faut produire. Et c'est à long terme que les choses doivent se faire, également de l'éducation, des programmes éducatifs au niveau des populations, l'investissement dans l'éducation. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer dans les pays du Sud, même dans les pays les plus riches. Quand
vous voyez les programmes éducatifs des pays musulmans les plus riches, mais vous pleurez. C'est le meurtre des intelligences. Il n'y a pas d'éducation qui soit une éducation de pointe et une éducation qui soit de nature à former des individus en phase avec leur époque dans tous les pays du Golfe. Une éducation qui est basée sur la mémorisation, qui est basée sur aucune des techniques et des pédagogies modernes. Voilà ce qu'on nous propose dans les pays les plus riches. Donc la réalité aujourd'hui, d'autres pays qui sont en train de proposer, c'est vrai en Malaisie, c'est vrai en Indonésie. Regardez les mouvements sociaux et les mouvements syndicaux, même en Indonésie. Vous savez qu'il y a un syndicat, il a 28 millions de syndiqués. Et il tient des structures de formation locale. C'est une des dimensions aujourd'hui qui peut montrer sa force et sur laquelle nous avons énormément à travailler. Une autre chose qui est importante et qui pour nous est fondamentale, ce sont toutes les dimensions des économies alternatives. Alors aujourd'hui, il y a énormément de déficits pour nous, par exemple, en tant que musulmans, dans ce qui concerne l'économie islamique, qui met en évidence une chose. Il ne faut pas laisser l'économie développer sa propre logique, mais il faut mettre des garanties humaines et dignes, un sens à l'économie. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'économie reste et demeure un instrument au service de l'homme et non pas l'homme écrasé par une économie. Cette dimension de l'économie à visage de principes et de valeurs, pour nous, respectant des valeurs, est en train de se développer dans beaucoup de pays musulmans. Et ça, c'est aussi une dimension extrêmement intéressante. C'est vrai en Malaisie, avec toute une structure parallèle d'économie fondée sur des principes et des valeurs qui sont particulièrement intéressants et sur lesquels nous-mêmes nous devrions travailler. Ce qui est très très surprenant, c'est que nous, ici au Nord, en tant que musulmans, par exemple, nous avons des principes et des valeurs et nous devons développer une économie ou en tout cas une réflexion sur l'économie qui nous sorte de l'économie classique. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de commerçants, énormément de musulmans qui confirment le système classique, qui confirment, alors qu'ils ont les pouvoirs ici au Nord de penser à des choses alternatives. On a le pouvoir de le faire, simplement on est paresseux. Quand le gain appelle le gain, cela atrophie l'esprit. Et c'est la réalité de beaucoup de musulmans riches dans les pays. Jusqu'ici à La Réunion. Qui à La Réunion développe une économie intéressante, qui soit une économie en rupture, parce qu'il en a les moyens financiers ? Très très peu. Alors on aimerait que les choses changent dans nos relations avec le Sud, mais nous ne faisons rien au Nord dans l'acceptation, ou si vous voulez, dans l'innovation de structures économiques. Et c'est dans le Sud en plus qu'on va voir, par exemple, ce qui s'appelle des coopératives de développement. Des coopératives de développement qui fonctionnent sur une dimension qui est une dimension d'une économie alternative, qui est orientée vers les productions agricoles vivrières, mais qui rapporte de la richesse aux gens de façon participative, répondant en cela à des principes beaucoup plus justes. Qui répondent à quoi finalement ? Un nouveau concept qui est en train de se développer dans les pays du Nord, qui s'appelle le commerce équitable. Le commerce équitable, et ça renvoie aussi aux musulmans, le fait qu'ils ne sont pas tout seuls à réfléchir à ces problèmes-là, qu'il y a énormément de partenaires qui développent des dimensions du commerce équitable. Et qu'est-ce que c'est le commerce équitable ? Respecter le paysan dans sa production, respecter les chaînes de transmission des richesses pour pouvoir développer une économie à visage humain. En d'autres termes, retrouver des valeurs et les imposer aux instruments qui développent nos relations avec nos semblables et avec notre environnement. Ceci est aussi une chose importante. Vous connaissez, et là aussi, il y a un formidable espoir qui vient d'être mis en évidence et qui doit se développer encore dans toute la gestion du microcrédit. Le microcrédit, vous avez sans doute entendu parler de Mohamed Younes au Bangladesh avec une nouvelle façon d'intervenir auprès des pauvres. Et regardez comment lui-même il décrit que des grandes puissances financières ont voulu ébranler son opération par l'intermédiaire d'une banque, un microcrédit donné à des pauvres pour qu'ils développent eux-mêmes une entreprise ou une production à visage humain. Et ça marche. Et ça marche comme ça a marché, par exemple, dans les années 63 en Égypte. Et le gouvernement de Nasser a cassé l'opération pour pouvoir garder la mainmise. C'était l'opération de Najab avec des banques d'épargne qui reprenaient tous les petits épargnants. Aujourd'hui, des choses comme ça sont aussi possibles et sont à encourager. Simplement, il faut les étudier. Il faut prendre en compte ces réalités-là. Ne pas supposer qu'on ait une solidarité, qui soit une solidarité simplement envoyée de l'argent. Aujourd'hui, vous connaissez le principe, au lieu de, de donner le poisson à quelqu'un, mieux vaut lui apprendre à pêcher. Et dans tout ce qui est notre relation avec le Sud, il faut développer des stratégies d'autonomisation. Et ça, ça part aussi du Nord. Ça part de toutes les consciences qui sont ici dans cette salle et qui aussi développent des possibilités de relation avec le Sud. Ça demande à chacun d'entre nous de revenir aussi à ses principes. Il ne s'agit pas d'avoir des principes quand on est assis et de tout oublier quand on agit. Il s'agit aussi de faire en sorte que ces principes-là développent notre action à tous les niveaux et en particulier au niveau du commerce équitable. Permettez-moi de dire une chose aussi et qui est le quatrième point d'une chose qui est importante. Aujourd'hui, il apparaît évident qu'il faut que nous rentrions dans une logique de rupture. Mais aussi une chose que nous devons dire, et nous devons le dire avec énormément de clarté, c'est que l'un des éléments qui va nous permettre de mettre du sens dans les relations Nord-Sud, c'est aussi la réaffirmation d'identité au niveau religieux comme au niveau culturel. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que ce qui se développe dans les pays du Sud, et en particulier dans beaucoup de pays musulmans, mais également au niveau de la Chine par exemple, c'est la réaffirmation d'une identité culturelle. Comprenant que cette identité-là peut être aussi la promotion d'un système alternatif. Et ça, c'est ce qu'on a bien compris au Nord. C'est que pour beaucoup, l'affirmation des références musulmanes peut être la production d'une résistance au modèle dominant. Contrairement à ce qu'on dit. Et c'est aussi pour ceci qu'il y a une confusion dans les médias voulant mettre en évidence que tout musulman qui résiste est un intégriste. C'est-à-dire qu'il utilisera la violence. Or, aujourd'hui, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est vrai en Malaisie. N'oubliez jamais, j'ai pas le temps de l'analyser ici, mais ce qu'on a fait à Anwar Ibrahim en Malaisie est exactement la mise à l'index, le fait de sortir un homme dont toute la réflexion part d'une identité musulmane et qui essaye de trouver une alternative. Et il a été complètement mis à l'écart et aujourd'hui accusé, on le sait faussement, son principal accusateur a dit ce n'était pas vrai, il est accusé de mauvais comportement moral, éliminé de la scène politique pour 7 ans. Et on sait que ça n'a pas de sens et que ça n'a pas de réalité. Mais c'était une façon pour un dictateur de le mettre à l'écart. Et bien aujourd'hui, la réaffirmation culturelle et identitaire, et même des références, peut devenir un instrument de résistance. Si tant est qu'on ne s'enferme pas en pensant que les musulmans s'en sortiront seuls. Il faut développer des partenariats. Et les musulmans, pendant longtemps dans le Sud, dans ces mouvements-là, ont pensé qu'ils étaient seuls à résister. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte, par la présence de musulmans dans les pays du Nord, en Europe, aux États-Unis, comme vous ici à La Réunion, qu'on n'est pas tout seul. Qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont lancés dans ce mouvement de résistance et qu'il faut établir des ponts. Et le premier pont que nous avons à établir pour nous tous qui sommes dans le Nord, et vous êtes dans le Nord, vous êtes dans une société qui est privilégiée parce qu'elle a la liberté, parce qu'elle a un pouvoir économique, parce qu'elle a la possibilité de s'informer, parce que surtout elle développe de l'éducation, c'est de développer des relais avec toutes les opérations du Sud. Vous n'êtes pas une île, vous avez participé à une réflexion intellectuelle de résistance par rapport à ce système-là. C'est ce que nous avons à faire. Et le premier élément de la résistance, c'est de connaître ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi de développer, même à partir d'une île comme La Réunion, des réflexions sur des économies alternatives. Comment on sort de ce système-là? Quand on sait le pouvoir économique des musulmans, par exemple, sur cette île, et des partenaires qu'ils peuvent avoir dans d'autres traditions religieuses, il faudrait peut-être se réveiller et essayer de trouver de nouvelles façons de faire du commerce, de nouvelles façons de développer une économie, et non pas pour se remplir les poches de confirmer une économie qui écrase des hommes et des femmes dans le monde entier. C'est la responsabilité de tous ceux qui ont un pouvoir financier aujourd'hui de développer une réflexion alternative à un niveau, essayer de trouver des personnes qui peuvent travailler, et ceci, c'est une des choses que nous avons à faire, c'est le partenariat actif que nous devons aujourd'hui développer. Et nous devons ainsi développer dans ce partenariat actif tous ceux qui, dans le Nord, sont en train de se rendre compte d'une chose. Et c'est là-dessus que je terminerai. Autant le système international a provoqué de désespoir et de désolation et de mort dans le Sud, comme je vous l'ai dit, 40 000 chaque jour, autant le système aujourd'hui est en train de nous montrer ses déficiences dans le Nord. avec la production de la plus grande pauvreté spirituelle jamais atteinte, le développement de crises psychologiques et de maux affectifs jamais vus auparavant, la réalité de familles complètement explosées, des villes où vous avez deux divorces pour trois mariages, la réalité d'une véritable crise de la personne humaine, de la personne et de son identité, de sa personne et de sa citoyenneté, avec une crise même de la démocratie où l'on se rend compte dans le Nord que ce n'est pas parce que tu votes que tu es libre de décider, parce qu'on peut te faire décider et t'influencer sur ta façon de voter. La véritable crise aujourd'hui se passe aussi dans le Nord et nous pousse chacun d'entre nous à trouver depuis ici les moyens de développer des partenariats dans le Nord pour devenir les soutiens pour le sens, pour la morale, pour l'éthique, pour la dignité humaine de nos partenaires, des hommes et des femmes qui sont dans le Sud et qui résistent. Développer des zones de résistance dans le Nord à toutes ces dérives en repositionnant sa présence dans le Nord. Pour ceux qui croient en Dieu, le rappel de cette spiritualité. Pour ceux qui ont une conscience, la détermination de défendre la dignité humaine, mais ensemble, de rappeler à partir du Nord qu'on ne peut pas proposer au monde le modèle qu'on est en train de nous proposer au Nord. Parce que ce n'est pas vrai. Il y a du mensonge dans l'air en nous proposant, regardez, c'est ce modèle-là qu'on aimerait voir dans le monde entier. Et ce n'est pas vrai. Ce modèle-là nécessite des réformes. Ce modèle-là nécessite des combats. Ce modèle-là nécessite qu'on se batte pour des valeurs, qu'on se batte pour l'éducation, qu'on se batte pour la famille, qu'on se batte pour la dignité humaine et qu'on n'oublie pas pour de l'argent, qu'on n'oublie pas pour la productivité, qu'on n'oublie pas pour le rendement, que nous restons des hommes et que nous devons défendre notre présence sur la terre. Ça, c'est aussi notre combat. Et notre éthique doit commencer, à mon avis, par là, en développant ceci. Rappeler, au nom de notre foi ou au nom de notre conscience, le sens, la valeur et la dignité. Rappeler le sens des limites à tous les niveaux. Dire qu'une économie qui n'a pas de limite est une économie inhumaine. Dire qu'une productivité sans âme est en train de détruire la planète, là aussi, un combat pour l'écologie s'impose. L'écologie et la réflexion sur les limites et le respect de la création est une des démarches que depuis le Nord, les musulmans doivent avec leurs partenaires défendre. Fondamentalement, nous ne pouvons pas être dans le Nord et voir ce que est en train de se poser le traitement des animaux. Nous sommes devenus indignes de cette création. Parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est d'avoir plus et de payer moins. Alors tu maltraites la nature, alors tu maltraites les animaux, alors tu maltraites tes semblables. Puisque la seule chose qui t'intéresse, c'est la productivité et le rendement. Ça, c'est notre combat, et c'est un combat aussi de dénonciation de tous ceux qui luttent, de tous ceux qui confirment ce système-là. Mais tous! Tous! Ce n'est pas simplement, parce que c'est facile, les États-Unis et l'Europe. Non, c'est tous ceux qui, dans le Sud, confirment ceci. Et même les pouvoirs musulmans, même les pouvoirs, et au premier rang desquels, le drame que nous sommes en train de vivre, d'être parmi les pays les plus riches de la planète, et de voir des pays comme l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, les Amers, les Émirats, dilapider l'argent des hommes, n'importe comment, et tout de toute terre, de critiquer les États-Unis parce qu'ils ne sont pas musulmans, et d'être lâche, lâche, trois fois lâche, parce qu'un musulman fait de cet argent et que les autres musulmans se taisent. Or, le Coran nous l'a enseigné il y a 14 siècles. Si tu vois un musulman injuste, la seule chose que tu puisses faire en face de l'injuste musulman, c'est de le résister, c'est de le dénoncer, et c'est de dire que tu ne pourras pas admettre qu'au nom de ses valeurs, il défend autant l'injustice. C'est aussi notre travail de nous engager à tous les niveaux dans la dimension de ses limites et surtout une chose. Ça commence aussi par là. La production dans les sociétés du Nord d'autant de chômage et d'autant de fractures sociales peut devenir un drame si nous ne nous y engageons pas. Ça commence aussi par là. Je l'ai dit et répété parce que je l'entends avec beaucoup, beaucoup de sensibilité. La Réunion, par exemple, ne pourra pas continuer à être ce qu'elle est dans le monde comme exemple d'une société plurielle avec 40% de jeunes au chômage. C'est pas possible. Donc il faut se battre, donc il faut travailler. Donc il faut aussi, en luttant pour la justice sociale ici, développer des économies qui soient des économies plus justes. Et vous le savez, la propension, l'augmentation de la drogue et de la consommation de la drogue, l'arrivée ici à La Réunion de réseaux possibles de prostitution, tout ça existe et vous le savez. Et ça demande à chacun d'entre nous, pour l'éthique, pour les relations aussi avec le Sud, pour les relations parce que nous sommes au Sud, de nous engager ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? Si tu as la foi, montre-le. Si tu as une conscience, montre-le. Mais montre-le comment? Non pas en étant assis, en développant le meilleur des discours sur la dignité humaine, mais il s'agit de lever tes manches, d'oublier un peu ton confort et de te battre pour la dignité des hommes devant Dieu ou pour ta conscience. Merci.